Pu Sung Ling, Fung troisième. Mademoiselle Fan onzième était jeune, jolie et d'une grâce sans pareille. Son père et sa mère l'aimaient beaucoup, et comme on la recherchait en mariage, il la laissait libre de décider à sa guise, mais elle avait refusé tous les prétendants. Un jour, que c'était la fête au couvent voisin et que les nonnes tenaient une grande assemblée où les jeunes filles se pressaient en foule, elle s'y rendit aussi. Comme elle se promenait là, une autre jeune fille s'approcha rapidement et à plusieurs reprises la regarda, comme si elle voulait lui parler. Onzième l'examina aussi. Elle avait 16 ans et était très belle. Onzième, charmée, ne la quittait plus des yeux à son tour. Elle sourit légèrement. « N'êtes-vous pas, dit-elle, mademoiselle Fan Onzième ?»« Oui. Depuis longtemps j'entends votre éloge et je vois qu'il était mérité. » Et vous, qui êtes-vous? Fung troisième, du village voisin. Elles se prirent par les manches et se mirent à causer, heureuses, confiantes, tendres. Bientôt, elles s'aimaient à ne pouvoir se quitter. Pourquoi, demanda onzième, ne pas vivre ensemble? J'ai perdu père et mère. Il ne me reste qu'une vieille aïeule que j'ai laissée à la maison. Je ne puis venir. Sur le point de se séparer, Fung avait les larmes aux yeux et Onzième était bouleversée. Elle pria son amie de l'accompagner. « Votre maison est opulente, » répondit Fung, « et la mienne modeste. Je crains de m'attirer des critiques. » Onzième insista. « Une autre fois, » dit-elle. Alors Onzième lui donna une de ses épingles d'or en souvenir. Fung détacha aussi une de ses épingles et la lui remit. Onzième rentra en proie au trouble de ses pensées. L'épingle n'était ni en or ni en jade. Personne dans la maison n'en avait vu de pareil. Chaque jour, la jeune fille espérait que son amie viendrait. Et la déception finit par la rendre malade. Ses parents l'ayant interrogée, envoyèrent au village voisin. Personne n'y connaissait ce nom. Un mois passa. Onzième dépérissait de plus en plus. Un jour, soutenue par une servante, elle était allée au jardin où on lui installait des coussins à l'ombre, quand une jeune fille monta sur le mur et regarda. C'était Fung troisième. « Venez m'aider !» La servante courut et l'aida à sauter. Alors onzième, de joie, se souleva un peu, fit asseoir Fung auprès d'elle et lui reprocha son manque de parole. Elle lui demanda aussi où elle habitait. « Ma maison est bien loin d'ici. J'étais en visite chez mon oncle et j'ai plaisanté. C'est lui qui habite au village voisin. Après vous avoir quitté, j'ai eu bien du chagrin. Mais les relations des pauvres et des riches s'arrêtent au seuil de la maison. À l'instant, j'avais honte. Je craignais les regards méprisants de votre servante. C'est pourquoi je ne suis plus venue. Mais en passant le long de ce mur, j'ai entendu votre voix. Je suis montée. J'avais l'espoir de vous apercevoir et mon vœu s'est accompli. » Onzième lui dit sa maladie et Fung fondit en larmes. « Je viendrai, » dit-elle. Mais en secret, je ne puis supporter les paroles qui courent et les rumeurs qui se répandent. » Onzième approuva cette résolution. Elles revinrent ensemble à la maison et, dans le même lit, se livrèrent avec délice à leur tendresse. La malade fut guérie. Elles convinrent de se traiter de sœurs, échangèrent leurs robes, leurs souliers. Dès que quelqu'un entrait, Fung se cachait sous les rideaux. Après 5 ou 6 mois, la dame Fan en apprit quelque chose. Elle entra brusquement un jour que les deux amis jouaient ensemble aux échecs. Elle examina Fung. Sans doute, Êtes-vous l'ami de ma fille ? Puis s'adressant à Onzième, votre père et moi ne pouvons que trouver heureux que votre ami soit dans votre chambre. Pourquoi ne nous l'avoir pas dit ? Onzième lui expliqua le scrupule de Fung. La dame Fan dit alors à celle-ci qu'elle la voyait avec joie demeurer près de sa fille et qu'il n'y avait pas de raison pour s'en cacher. Fung, rouge de honte, maniait sa ceinture sans répondre un mot. Sitôt la mère partit, elle voulut s'en aller. Onzième parvint à la retenir. Mais peu après, un soir, elle l'aperçut qui rentrait dans la chambre en courant. Tout est perdu. « Je vous disais bien que je ne pouvais pas rester. Je viens d'avoir un grand affront. »« Qu'y a-t-il ? » ?»« Je m'étais levée pour un petit motif quand un jeune homme a failli me heurter en passant. J'ai pu me sauver. Mais comment oser encore lever le front ici ?» Onzième lui demanda comment était ce jeune homme et le reconnut. « Ne vous effrayez pas, c'est mon beau-frère, un étourdi. » Je dirai à ma mère de le gronder. » Mais Fung persistait à vouloir partir. Onzième la priait d'attendre au moins le jour. Elle répondit : la maison de mon oncle n'est pas loin. Il me faut seulement une échelle pour passer votre mur. » Voyant qu'il n'y avait rien à faire, Onzième chargea deux servantes de l'aider à passer le mur et de l'accompagner. À quelques pas de distance, elle les congédia. Onzième resta couchée, aussi triste que si elle eût perdu un mari. Quelques mois après, une de ses femmes étant allée au village voisin pour une affaire, s'en revenait le soir quand elle rencontra Fung accompagnée d'une vieille grand-mère. Elle la salua toute heureuse. Fung, émue, lui demanda des nouvelles de son amie. La servante la prit par la manche. « Mademoiselle, venez à la maison. Notre maîtresse se meurt de vous attendre. » »« Moi aussi, je pense bien à ma sœur, mais je ne veux pas que les gens de la maison connaissent mon retour. Laissez la porte du jardin ouverte. Je viendrai. » Le soir, Onzième la trouva en effet dans le jardin. Elles se contèrent ce qui était arrivé depuis leur séparation et restèrent à bavarder sans songer au sommeil. Quand elles virent la suivante endormie, elles rentrèrent et partagèrent de nouveau le même lit. Alors Fung dit en secret à son amie : je sais, petite sœur, que vous n'êtes pas mariée encore. Riche et belle comme vous l'êtes, avez-vous besoin d'un mari qui soit aussi riche aussi ? Un jeune fat en culotte de soie, n'est-ce pas ce qu'il vous faut ? Si vous voulez un bon mari, ne regardez pas à la fortune. » Onzième fut de cet avis. « À l'endroit où je vous ai rencontré, reprit Fung l'an passé, il y a encore une fête. Voulez-vous y venir demain ? Je vous ferai voir un mari selon vos désirs. J'ai un peu étudié les livres de physionomie et ne m'y trompe guère. » Elle partit au matin en donnant rendez-vous à Onzième au temple. Quand Onzième arriva, Fung l'attendait. Elles firent un tour ensemble, puis Onzième la pria de monter dans sa voiture. Elles en descendirent et se promenèrent en se tenant par la main. Elles rencontrèrent alors un bachelier d'environ 17 ou 18 ans, simplement vêtu de toile, mais de fort bonne mine. Fung le montra tout doucement à Onzième. Voilà un homme que l'académie attend. Onzième jeta un coup d'œil. Allez devant lui, dit Fung, je vous rejoindrai. Elle vint en effet, comme Onzième entrait dans sa chambre. Je me suis informée, il est de ce village et se nomme Meng Ngan Jen. Onzième savait que cette famille était pauvre et ne croyait pas le mariage possible. Petite sœur, pourquoi vous abaissez aux coutumes du monde ? Si ce jeune homme reste pauvre plus tard, je n'ai plus qu'à fermer les yeux et à ne plus juger aucun visage. Mais comment faire ? Quand on désire une chose, on prend les dispositions nécessaires. Ma sœur, Pourquoi tout ce tracas? Mes parents vivent encore. Que faire s'ils n'entrent pas dans nos vues? C'est justement ce que je redoute. Si vous êtes décidé, vous serez bien avancé quand le jeune homme sera mort. Onzième résistait toujours. Votre mariage est déjà fixé par le destin, mais le démon n'est pas encore apaisé. C'est pourquoi je suis venue à votre aide en souvenir du bien que vous m'avez fait. Je vais partir, mais je me permettrai de lui offrir l'épingle d'or que vous m'avez donnée. Onzième réfléchissait encore que Fung était déjà parti. Ce Mang était pauvre, mais de beaucoup de talent. Il songeait à prendre femme, mais à 18 ans, n'avait pas encore fait de démarche pour cela. Il avait bien vu les deux jeunes filles et était rentré plongé dans de sombres pensées. Il était près de 9 heures du soir quand Fung frappa à sa porte et entra. Il fit de la lumière et la reconnut. « Je me nomme Fung, » dit-elle, et suis la compagne de Fan Onzième. Sans en demander davantage, il voulut la prendre par la taille. « Non, » dit-elle, « je ne suis pas l'amoureuse mais la confidente. Onzième veut conclure une alliance indissoluble et m'envoie vers vous. » Comme le jeune homme restait indécis et incrédule, elle lui montra l'épingle. Le jeune homme fut au comble de la joie. Il envoya une vieille voisine chez la dame Fan, qui, à cause de sa pauvreté, le refusa, sans même en parler à sa fille. Onzième, l'ayant appris, en fut désespéré et regrettait profondément l'erreur de Fung. Comme il lui était impossible de reprendre son épingle, il ne lui restait plus qu'à invoquer la mort. À quelques jours de là, un jeune homme de grande famille l'a demandé en mariage, et de crainte d'être repoussé, chargé de la démarche, le gouverneur de la ville. Ce jeune homme avait déjà un emploi important. Le père en fut impressionné et fit demander le consentement de sa fille. La dame Fan alla lui parler. Elle ne répondit rien et se mit à pleurer. Puis elle alla prévenir sa mère qu'elle ne se marierait pas tant que le jeune Meng serait en vie. Le père en colère passa outre, croyant à une amourette sans importance, et fixa le jour des noces. Onzième, indigné, en cessa de manger et resta au lit. Enfin, la veille du jour des fiançailles, vers le soir, elle se leva et fit sa toilette. La dame Fan, qui l'avait vue, en était toute heureuse, quand une petite servante accourut en annonçant que sa maîtresse venait de s'étrangler. Ce fut un désespoir affreux dans toute la maison. Le jeune Meng, ayant appris le refus, était au comble du dépit. Il allait et venait, s'informer, observer, espérant encore un retour de fortune. Quand il apprit que la jeune fille allait avoir un maître, enflammé de colère, il roulait 1000 pensées contraires. Il sut ensuite sa fin prématurée et fut alors désolé. Que n'eût-il donné pour pouvoir la rejoindre dans la mort? Un soir, il sortit pour aller à la faveur de la nuit pleurer sur la tombe. Une forme humaine apparut. C'était Fung. « Je suis heureuse, dit-elle, que votre mariage puisse s'accomplir. » Tout en larmes, il lui dit « Quoi, ne savez-vous pas qu'elle est morte ?»« C'est bien ce que je veux dire. » C'est sa mort qui nous permet de l'appeler. Si vous creusez cette tombe, j'ai une drogue qui la rendra à la vie. » Le jeune homme creusa la tombe, brisa le cercueil, combla le trou et revint avec Fung en portant la petite morte sur ses épaules. Ils la mirent sur le lit. Fung jeta sur elle sa drogue et, après un moment, elle revint à la vie. En voyant Fung, elle dit « Où suis-je ?» Fung lui montra le jeune homme. « C'est Mang Ngan Jen. » Et elle lui dit ce qui était arrivé. Elle semblait sortir d'un rêve. Par crainte des indiscrétions, Fung les emmena à 2 lieues de là, dans un village de la montagne. Elle voulait partir. Onzième la pria avec des larmes de rester sa compagne et lui donna une chambre séparée. Les parures qu'on avait mises dans le cercueil assuraient leur subsistance et il leur fallait peu de choses. Dès que le jeune homme entrait, Fung se retirait. Un jour, Onzième lui dit avec abandon « Nous sommes plus unis que des sœurs qui ont même sang et même chair. Cependant, notre union ne sera plus dans 100 ans d'ici. Ne vaudrait-il pas mieux encore que vous acceptiez un bon mari ?»« J'ai une recette de longue vie. Je n'ai pas besoin de mariage pour perpétuer ma mémoire. » »« Il y a par le monde bien des recettes de ce genre, » dit Onzième en souriant. « Qui les a jamais éprouvées ?» La recette dont je parle n'a rien de commun avec celle que les hommes se transmettent. Seule, elle n'est pas trompeuse. C'est celle des alchimistes. Elle consiste dans la liberté du souffle et du sang. Ce n'est pas une drogue d'apothicaire. Onzième parla de tout cela à son mari. Un jour, elle feignit qu'il fût absent et invita Fung à passer la nuit. Elle la fit boire. Quand elle fut assoupie, Meng entra tout doucement et la prit par surprise. Elle s'éveilla. « Ma sœur, vous faites mon malheur. Tant que je gardais la pureté, je devais, après avoir atteint la voie, monter au premier ciel, et me voilà redescendue à la condition d'une femme impudique. » Elle voulait partir. Onzième lui dit qu'elle avait été sa pensée et lui demanda pardon tristement. « Je vous dirai la vérité. Je suis ogresse. Je me suis éprise de votre grâce et soudain me suis éveillée à l'amitié comme le papillon sort de sa chrysalide. Ce qui arrive aujourd'hui est l'œuvre du démon de l'amour et ne dépend pas de la volonté humaine. Si je reste, le démon deviendra de plus en plus fort et rien ne pourra le conjurer. Mademoiselle, votre bonheur ira très loin. Veillez sur vous-même comme sur un très précieux trésor. » Elle disparut, les laissant désolés. L'année suivante, Meng fut reçu, licencié. Il devint académicien après avoir été se présenter comme un gendre à M. Fan, qui d'abord se fâcha, croyant à une mauvaise plaisanterie. Mais ayant envoyé aux informations, il fut détrompé. Cependant, par crainte d'un malheur, il crut devoir garder le secret. Mais l'année suivante, l'ancien fiancé de la jeune fille fut appelé par ses fonctions en une autre province. Le mariage fut alors célébré régulièrement. Ici se termine le conte de Pu Sung Ling, Fung III.